C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. 5 diagnostics différents pour une même maison. Les DPE obligatoires pour louer ou vendre un bien sont-ils parfois réalisés au doigt mouillé ? Étude édifiante ce matin de l'association 60 millions de consommateurs, alors que le dispositif va bientôt devenir très contraignant. Dans ce journal, une parole rare, un économiste chinois brave la censure et ose critiquer la stratégie zéro Covid dans son pays. Notre correspondant a pu le joindre. Au sommaire aussi, la campagne des législatives. Marine Le Pen tente de relancer la dynamique RN. Un grand patron face à de graves soupçons de viol sur mineurs. Et vous l'entendrez, un ancien du GIGN serait aussi impliqué dans cette affaire. Et enfin, direction le Mont-Saint-Michel pour une tentative de record du monde de traversée en slackline du funambulisme moderne.
Et au micro d'Alexandra Bensaïd, dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui, deux journalistes, Ava Jamshidi et François-Xavier Ménage, pour leur livre consacré à la conseillère d'Éric Zemmour, enquête sur l'intrigante Sarah Knafo, l'histoire secrète d'un candidat sous influence. C'est publié chez Robert Laffont.
France Inter.
C'est un passage obligé pour vendre ou louer un appartement, une maison.
Oui, il faut produire un diagnostic de performance énergétique, un DPE avec son échelle de A à G. C'est comme cela, théoriquement, qu'on repère les passoires thermiques. Le dispositif va devenir de plus en plus restrictif. Dès la fin août, les logements notés F et G ne pourront plus voir leur loyer augmenter. Et en 2025, certains ne pourront plus être loués du tout s'ils restent en bas de classement. Autant dire que l'attribution de la note est aujourd'hui capital. Alors la dernière étude de 60 millions de consommateurs a de quoi inquiéter ce matin, car Agnès Soubiran, la fiabilité du diagnostic laisse vraiment à désirer.
4 maisons à vendre ont été soumises au diagnostic de 5 sociétés ou indépendants. Résultat, pour une même maison, 5 diagnostics différents avec parfois 3 classes d'écart et des erreurs grossières sur la date de construction ou la superficie.
La surface du logement peut ne pas être bonne. Pourtant, dans certaines maisons, il y avait des plans disponibles. Ça, c'est un conseil pour les particuliers, conserver et donner aux diagnostiqueurs vos plans.
Fanny Guibert est journaliste au magazine 60 millions de consommateurs.
Comme les diagnostics sont faits par rapport au mètre carré, si vous vous trompez sur la surface, vous n'avez pas un bon diagnostic.
Certains bilans comportaient également des erreurs sur le nombre de fenêtres ou le système de production d'eau chaude, alors que des ballons étaient bien visibles.
Il y a vraiment besoin d'être mieux formé, il n'y a pas de raison de faire des erreurs de métrage, c'est vraiment pas possible. Et ensuite, il faut aussi passer peut-être plus de temps, il y a peut-être une simplification des logiciels, ça, côté pouvoir public, pour peut-être éviter certaines saisies de données. Mais quoi qu'il en soit, les résultats et la qualité n'est pas au rendez-vous.
Et l'association de défense des consommateurs s'attend à une explosion du nombre de contentieux, car désormais l'acheteur, s'il constate de trop gros écarts entre la réalité et le diagnostic établi lors de la vente, pourra se retourner contre le vendeur qui lui-même pourra se retourner contre le diagnostiqueur.
Explication signée Agnès Soubiran. Il y a désormais 3 cas confirmés de variole du singe dans notre pays, communiqué cette nuit de Santé publique France. Tandis que le Royaume-Uni en compte désormais 57 depuis le début du mois. Cette survenue soudaine en Europe et en Amérique du Nord intrigue les scientifiques, même si les autorités européennes se veulent rassurantes. Risque de contagion très faible en population générale. Pour autant, aux États-Unis, on se prépare déjà à vacciner les cas contacts des malades. En Chine, c'est toujours le Covid qui mobilise tout un pays. Les mesures draconiennes s'assouplissent à Shanghai, mais se renforcent ailleurs, comme dans la province du Henan, dans le centre. 100 millions d'habitants, tous sont désormais soumis à un test PCR tous les 2 jours. Une stratégie zéro Covid remise en cause ce matin par un économiste chinois, professeur à l'université de Pékin. C'est l'un des rares à prendre le risque de sortir du silence face à la censure du régime. Il répond aux questions de notre correspondant Sébastien Berriot.
Ni Rui Roy enseigne l'économie au sein de la prestigieuse Université du Peuple de Chine à Pékin. Lorsqu'on demande au professeur ce qu'il pense de la politique zéro Covid, sa réponse est sans hésitation.
Pourquoi certaines villes sont confinées alors qu'il n'y a pas d'épidémie? Donnez-nous une explication. Il faut réduire cette propagande horrible autour du virus. Une seule personne a eu un rhume et voilà, c'est la ville entière qui est fermée. Il devrait pouvoir y avoir un débat sur ces questions médicales. Et il est important que le gouvernement puisse donner à la population un calendrier pour savoir quand les dépistages seront terminés, quand les gens pourront sortir de leur maison.
Alors que le gouvernement chinois assure que la stratégie zéro Covid est une manière de protéger à la fois la santé de la population et l'économie chinoise, le professeur, lui, exprime son désaccord.
Certaines entreprises ne peuvent plus tolérer toutes ces mesures sanitaires. Je suppose qu'elles vont partir quand Shanghai sera débloqué. Ça nous affaiblit et ça a un impact sur la politique d'ouverture qui a permis notre croissance économique dans le passé. Aujourd'hui, toute la planète est ouverte, sauf la Chine.
Nie Ruihua, qui est l'un des tout premiers économistes en Chine à prendre le risque de s'exprimer publiquement dans un média étranger sur ce sujet ultra sensible sur lequel le président Xi Jinping s'est engagé de manière personnelle. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
24 février, 4 heures du matin, Vladimir Poutine apparaît soudainement à la télé russe et les premières bombes tombent sur les villes ukrainiennes. C'était il y a 3 mois, jour pour jour. 3 mois de guerre en Ukraine, depuis des dizaines de milliers de morts, plus de 6 millions de réfugiés et aujourd'hui une offensive russe concentrée dans le Donbass où la ville de Severodonetsk semble promise au même sort que Mariupol, encerclement et bombardement intensif. Pour résister, Kiev compte beaucoup sur les nouvelles armes promises hier soir par 20 pays occidentaux. Dont les États-Unis. Sur franceinter.fr, dès maintenant, 3 mois de guerre résumés en 4 images fortes. Cette guerre en Ukraine, ses conséquences économiques n'ont à ce stade pas d'impact sur la rémunération des actionnaires. Nouveau record de dividendes au premier trimestre, qui inclut donc un mois de conflit. Les versements aux investisseurs sont en hausse de 11% au niveau mondial et dépassent les 300 milliards de dollars, selon une étude du gestionnaire d'actifs Janus Anderson.
7h36, Alexis Morel. Damien Abad, contre-attaque face aux accusations de viol.
Le ministre des Solidarités dénonce un voyeurisme malsain ce matin dans les colonnes du Progrès et répète qu'il n'a jamais violé une femme. En pleine campagne des législatives, l'opposition s'en empare. Marine Le Pen estime que le simple fait d'avoir un comportement inapproprié avec des femmes devrait vous écarter d'un poste ministériel. La patronne du RN qui tente de relancer une dynamique après le coup de frein post-présidentiel. Et c'est depuis les Bouches-du-Rhône que depuis hier, elle essaye de s'imposer comme seule opposante crédible à Emmanuel Macron, Élodie Forêt.
Maintenant, il faut y aller, soupire un petit four à la main, une candidate RN. Ce qu'elle espère, une campagne désormais plus offensive, après des jours d'inertie et d'un discours teinté de défaitisme que Marine Le Pen a tenté hier soir d'enrayer.
Certains journalistes me disent « Ah, mais vous avez comme ambition que de n'avoir que 60 députés ». Donc ça n'est pas exactement le propos que j'ai tenu. J'ai dit une chose, c'est qu'à 60 députés, on a l'intégralité des moyens qui sont accordés à un groupe d'opposition.
Nous voulons le plus, insiste Marine Le Pen. Et pour mobiliser les électeurs, un message, le RN serait la seule opposition crédible. Principal épouvantail, Jean-Luc Mélenchon.
La principale opposition, elle teinte la politique qui est menée par le gouvernement. Donc, comment veut-on teinter la politique d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on veut la teinter en rouge ? Ou est-ce qu'on veut la teinter en bleu, blanc, rouge ?
Jean-Luc Mélenchon, qui selon Marine Le Pen ne serait pas un réel opposant, la nomination de Pap Ndiaye, un renvoi d'ascenseur à l'insoumis en chef pour avoir appelé à voter Macron, hostel. Quant au LR, des vendus ou des semi-vendus, conclut l'ex-candidate à la présidentielle, espérant que ses saillies suffisent à la remettre dans l'arène.
Et ces élections législatives compteront nettement moins de candidats qu'en 2017. 6293 hommes et femmes se présentent à ce scrutin du mois de juin. C'est 20% de moins qu'il y a 5 ans. Ça s'explique notamment par l'alliance nouée à gauche avec la NUP. Il est l'une des 500 premières fortunes de France et dort en prison depuis le week-end dernier. Jacques Boutier, patron d'Assu 2000, groupe de courtage en assurance, est mis en examen, notamment pour viol sur mineurs et traite des êtres humains. À 75 ans, il est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs jeunes femmes, certaines adolescentes donc, dans un appartement parisien. Et plus récemment, il aurait aussi tenté de récupérer une vidéo compromettante avec l'aide d'un ancien membre du GIGN, Emmanuel Leclerc.
L'information a provoqué la stupeur dans son ancienne maison. Comment un ancien gendarme d'élite, reconverti dans la sécurité privée, a-t-il pu se retrouver mêlé à une affaire pareille ? Est-ce qu'on lui a vendu une affaire d'extorsion de fonds, un piège pour faire chanter Jacques Boutier ? Toujours est-il que l'ex-membre du GIGN est en tout cas soupçonné d'avoir participé à une tentative d'enlèvement et de séquestration de la jeune femme âgée de 22 ans qui a filmé Jacques Boutier dans son lit avec une adolescente. Vidéo accablante, remise finalement au policier. Dans sa déposition, L'auteur explique que cela faisait 5 ans que l'homme d'affaires l'hébergeait dans un appartement parisien et la rémunérait en échange de prestations sexuelles. Mais récemment, on lui a demandé de se trouver une remplaçante bien plus jeune qu'elle. Selon sa version, de sources proches de l'enquête, on confirme que 6 autres jeunes femmes ont été identifiées avec le même profil, vivant dans des squats ou en foyers, et qui ont toutes vécu des situations similaires avec le septuagénaire fortuné.
Une ancienne directrice d'EHPAD condamnée à 1 an de prison avec sursis en Seine-et-Marne. L'an dernier, elle a dirigé son établissement muni d'un faux pass sanitaire pendant près de 4 mois. C'est l'une de ses infirmières qui l'avait dénoncé après avoir été licenciée.
On ne le souhaite pas, mais à Roland-Garros, c'est peut-être la dernière pour Joe Wilfried Tsonga.
Le tennisman français a prévenu qu'il arrêterait sa carrière à l'issue de ce tournoi parisien et il affronte aujourd'hui un joueur bien mieux classé que lui, le Norvégien Casper Ruud, numéro 8 mondial. Lui n'a que 28 ans, mais il détient déjà 10 d'exploits à son actif. Nathan Paulin, funambule des temps modernes. Ce haut savoyard s'est fait connaître en traversant la Seine entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, en équilibre sur une slackline, cette étroite sangle élastique. Et aujourd'hui, il se lance un nouveau défi. 2200 mètres de traversée au-dessus de la mer en direction du Mont-Saint-Michel. Ce serait un record du monde, Mathilde Dehimy.
Il se repère au son, aux sensations de son corps et à ce qu'il voit sous ses pieds. La mer et le Mont-Saint-Michel au loin. Nathan Paulin en rêve, mais il faudra faire attention aux bourrasques.
Une légère brise, c'est parfait. Ça stabilise la sangle, étonnamment. Trop de vent, ça peut être poussé sur le côté, sur 20 mètres. Et je vais revenir au centre un peu naturellement, et c'est ça qui est difficile. Donc c'est vraiment le corps qui a réappris à marcher sur cette surface instable.
Trouver son équilibre sans balancier. Nathan Paulin a beau avoir 10 de records du monde à son actif, il n'exclut pas d'avoir un peu le vertige.
Quand on est dans le vide, en train de marcher sur un fil, c'est plus du tout les mêmes repères, donc ça déboussole complètement le cerveau. Donc il y a au début un peu une impression de vertige, et puis après moi je reprends mes repères. Il y a une impression de légèreté. Je suis vraiment entre guillemets dans ma bulle, même si j'entends souvent tout ce qui se passe en dessous.
Il partira d'une grue à 100 mètres de hauteur pour arriver dans la salle des cloche de l'abbatiale, et comme pour la tour Eiffel, il a fallu faire des calculs pour attacher la sangle.
Sur le Mont-Saint-Michel, on a une structure en aluminium dans la salle des cloches, qui viendra s'appuyer à l'intérieur de la salle des cloches. On protège tout. On a une tension qui est estimée au maximum à plus d'une tonne 5. On a fait des calculs avec un bureau d'études qui nous dit que les piliers du Mont-Saint-Michel tiennent largement cette charge-là.
Première tentative à 17h, à marée haute et en fonction de la météo.
Et ce ne sera peut-être pas la seule. Nathan Paulin se donne 3 jours pour y arriver en fonction de la météo. Rassurez-vous, Jérôme, il est attaché.
Oui, je me posais un peu la question. Voilà, oui. Évidemment, on respire un petit peu avec cette information avant cette traversée vers le Mont-Saint-Michel. Alexis Morel pour ce journal. L'édito politique est à suivre.